Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Ce soir, nous nous tournons vers le Christ roi, vers l'enfant Jésus jusqu'au 2 février, couronné comme à Prague, pour le prier encore, afin que l'âme du roi Louis XVI repose en paix. Cette paix, le 21 janvier 1793, il l'a demandée à Dieu en se tournant vers la foule. « Peuple, je meurs innocent. Je pardonne aux auteurs de ma mort. Je prie Dieu pour que mon sang ne retombe pas sur la France. » Cette mort chrétienne reprend la parole du Sauveur. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » De même, son confesseur, l'abbé irlandais Edgeworth de Firmont, avait recommandé au roi de se laisser lier les mains par cet argument. « Sire, dans ce nouvel outrage, je ne vois que le dernier trait de ressemblance entre votre majesté et le Dieu qui sera votre récompense. » Et lors de l'exécution, le prêtre ajouta « Fils de Saint-Louis, montez au ciel. » En priant donc ce soir pour le roi Louis XVI, c'est bien pour la France catholique que nous venons à la source de toute grâce de salut, à la source du saint sacrifice de la messe. C'est par son baptême de sang sur la croix que notre Seigneur Jésus-Christ nous a donné les mérites infinis de son innocence d'agneau de Dieu. C'est ce même baptême qui a porté Louis XVI à confesser l'amour et la miséricorde au milieu du déchaînement de la jalousie, du mensonge et de la haine. Dans la couleur noire du deuil, de la pénitence, de la supplication, nous sommes rassemblés au pied de l'autel pour prier pour un homme descendant d'une lignée appelée par la providence divine à diriger les Français pour qu'ils soient protégés de l'inquiétude terrestre et puissent se tourner vers Dieu. La tranquillité de la vie quotidienne des familles et le bien commun de tous ont été assurés en harmonie avec la vraie religion de paix et d'amour. Et malgré les péchés des chrétiens et malgré les guerres, l'Évangile apporte au peuple un remède profond à la discorde et à la violence à travers les siècles. Les béatitudes ne cessent de porter du fruit et les rois chrétiens ont toujours été invités par l'Église, corps du Christ, à respecter et méditer les enseignements du Sauveur Jésus malgré les guerres. À travers les gestes de Dieu pour les Francs, Gesta Dei per Francos, par les Francs, reconnaissons la nécessité de nous convertir ce soir et d'invoquer les cœurs unis de Jésus et de Marie pour la France et pour le monde. Mais tout d'abord, cette France va connaître, au moment où nous accueillons ce soir les reliques de Sainte Geneviève, la désorganisation et la chute de l'Empire romain d'Occident, avec la déposition du dernier empereur en 476, Romulus Augustus, par Odoacre, un ruge ou d'origine ou un sire, lui-même fut assassiné par Théodoric, roi des Ostrogoths. C'est en ces temps que nous trouvons Geneviève, née à Nanterre en 420, il y a 1600 ans. La vie de Geneviève a été rédigée en 520, soit seulement 18 ans après le rappel à Dieu de la Sainte, le 3 janvier 502. Ce qui déprime, ce qui jette sur le passé est toujours légende pour discréditer notre passé et les miracles. Elle rassemble cette vie de Sainte Geneviève, les témoignages directs de personnes vivantes. Geneviève est issue d'une famille de l'aristocratie gallo-romaine, fille d'un franc romanisé, officier puis régisseur de terres d'empire. En tant que fille unique, elle a hérité de la charge paternelle de membre du conseil municipal, charge qu'elle a exercée tout d'abord à Nanterre, puis à Paris, en s'établissant dans l'île de la Cité. Catholique, elle se voue très jeune à Dieu et est remarquée par Saint Germain d'Auxerre et Saint Loup de Troyes, qui passent par Nanterre en 430 à l'occasion de leur voyage vers la Grande-Bretagne. Elle reçoit à Lutèce le voile des Vierges des mains de l'évêque. Mais plus particulièrement, lors du siège de 451 à 28 ans, elle va convaincre les habitants de ne pas abandonner leur cité aux barbares, aux Huns, aux envahisseurs. Elle encourage les Parisiens à résister à l'invasion par les paroles célèbres « Que les hommes fuient s'ils veulent, s'ils ne sont pas capables de se battre. Nous, les femmes, nous prierons Dieu tant et tant qu'il entendra nos supplications. » De fait, Attila évita Lutèce. Geneviève aussi parvint à convaincre le clergé d'ériger une basilique à l'emplacement du tombeau du premier évêque Saint-Denis, avec son compagnon Saint-Eugène honoré dans cette église. Son flambeau ne s'éteindra pas face au souffle du démon. Mais voilà le lien extraordinaire avec Louis XVI ce soir. En 465, elle rentre en négociation avec Childéric, gouverneur romain de la province de Belgique et premier roi de la dynastie des Mérovingiens, païen, mais non contaminé par l'hérésie arienne, pseudo-chrétienne, qui niait la divinité du Christ. Il est de cette élite franque, ayant opéré la fusion entre les cultures germano-romaines et païennes des tribus du Danube. Pour confirmer sa foi catholique, Geneviève veut écarter les Visigoths et le roi Odoacre, arien de la Gaule du Nord, et qui commence à se rapprocher des Visigoths. Tout cela vous semble lointain, mais pourtant cela a constitué notre pays. Siagrius, qui domine une partie de la Gaule du Nord, commence à se rapprocher des Visigoths. Geneviève rencontre donc Childéric à Laon, pour lui demander d'intervenir et pour préserver la paix publique. Nous sommes là ce soir pour prier pour les autorités publiques, pour ceux qui gouvernent la France ou qui vont la gouverner. C'est Clovis, le fils du roi Childéric, qui battra Siagrius à Soissons. Mais Clovis veut finalement prendre Lutèce. Pendant 10 ans, il va l'assiéger en vain. Le païen Clovis. Geneviève parvient à ravitailler plusieurs fois la ville avec du blé, de la brie et de champagne. Le roi n'ignore pas l'exigence principale de Geneviève en échange de la reddition de la ville. Elle dirige la ville, cette femme. Elle veut sa conversion et celle de tous ses guerriers au catholicisme. Finalement, voulant échapper à une alliance avec les souverains Visigoths et Ostrogoths, Clovis dépêcha des émissaires en Burgondie, arienne, pour lui trouver une épouse. Eh bien, la Providence lui a choisi une princesse catholique, Clotilde, fille du roi de Genève, Chilpéric, qui sera assassinée par son frère Gondebaud, roi des Burgondes. Le mariage eut lieu en 493 à Soissons. Dès lors, avec Geneviève, Clotilde fit tout pour convertir Clovis au catholicisme. Mais en 494, son nouveau-né, Ingomère, tout juste baptisé, meurt. Devant cet événement, Clovis, le païen, considère que le baptême ne vaut rien et n'a pas préservé son fils de la mort. Alors, il encercle Lutèce de manière plus ferme. Et Geneviève veille sur les remparts de la cité. Le territoire, la ville est menacée par une famine cruelle Et Geneviève réquisitionne des bateaux, remonte le fleuve et fait encore acheminer le blé nécessaire. Elle fabrique du pain, elle le fait vendre et elle le fait donner aux pauvres. Ce fut finalement pendant la bataille de Tolbiac contre les Alamans en 496 que le païen Clovis eut peur devant la déroute de son armée et le massacre qui commençait. Et après avoir invoqué tous ses dieux, il invoqua le dieu de Clotilde. Et immédiatement, les pertes s'arrêtèrent et les Alamans s'enfuyèrent. Devant ce miracle qu'un militaire comme lui connaît bien, il accepte le baptême avec ses guerriers à Reims le 25 décembre 496 avec l'évêque Saint-Rémy. L'événement mettait les rois ariens en porte-à-faux avec leurs sujets gallo-romains. La France devenait la première nation, la fille aînée de l'Église catholique. Politique et religion, sainteté et politique, providence pour la foi catholique, la foi au Verbe qui s'est fait chair et qui habitait parmi nous, ce soir pendant cette sainte messe, lors de la consécration. Providence historique des actions de Dieu, des gestes de Dieu par les Francs, afin qu'elle soit, cette France, une lumière qui va envoyer des missionnaires dans le monde entier pendant des siècles. Et ces dynasties providentielles des Mérovingiens, des Carolingiens et des Capétiens ont toujours accompagné le siège de Pierre pour porter du fruit. Saint Louis apporta la Sainte Couronne à Paris dans l'écrin de la Sainte Chapelle, couronnant de sacrifice et de gloire le désir de suivre la volonté divine. Pour préserver le royaume du Christ vers roi de France par la triple donation, Sainte Jeanne d'Arc fut une nouvelle Geneviève en accomplissant la mission donnée par Saint Michel Archange de faire sacrer Charles VII le 17 juillet 1429 dans la cathédrale de Reims. Même providence pour Louis XIII qui fonde Notre-Dame des Victoires en 1629. Le roi répond à l'appel des Augustins Deschaussées. Il exprime le souhait de voir une église dédiée et consacrée en l'honneur de la Sainte Vierge sous le titre de Notre-Dame des Victoires, en connaissance de toutes les victoires qu'il avait remportées par sa protection sur les ennemis intérieurs et extérieurs du royaume. Le dimanche 9 décembre, le roi en pose solennellement la première pierre au lieu où la veille, le 8 décembre, fête de la Sacrée Conception de la Vierge Marie, l'archevêque de Paris, Mgr de Gondi, planta la croix à l'endroit destiné à la construction de l'église. Mais voyez-vous, c'est en 1637, après 22 ans de mariage, que Louis XIII, désespéré, ne pouvant pas avoir d'enfant, supplie la Vierge Marie pour le royaume de France, pour qu'il soit en paix, pour qu'il ait un héritier catholique. Eh bien, le 27 octobre de cette même année, le frère Fiacre, un religieux augustin, voit la Vierge Marie lui apparaître. À 4 reprises, entre 1h et 4h du matin, le religieux aura devant les yeux la mère du Christ accompagnée d'un enfant. C'est le cri d'un tout petit qui a attiré l'attention du moine. Il tourna la tête du côté de la voie et aperçut la Vierge environnée d'une belle et agréable lumière, ayant un enfant dans les bras, vêtu d'une robe bleue semée d'étoiles, ses cheveux pendant sur ses épaules. Assis sur une chaise, et qui lui dit « Mon enfant, n'ayez pas peur, je suis la mère de Dieu. » Sur cela, il se jeta en terre pour adorer l'enfant qu'elle tenait entre ses bras, pensant que ce fut l'enfant Jésus. Mais la Vierge sacrée lui dit « Mon enfant, ce n'est pas mon fils, c'est l'enfant que Dieu veut donner à la France. » Dans cette révélation portée à la connaissance de la reine et du roi, la Vierge demande 3 novennes à Notre-Dame des Grâces, à Cotignac, en Provence, à Notre-Dame de Paris et à Notre-Dame des Victoires, qui seront accomplis par le frère Fiacre du 8 novembre au 5 décembre 1637 et le 5 septembre 1638, Anne d'Autriche donne naissance à Louis Dieudonné au château de Saint-Germain-en-Laye. Louis XIII formula le vœu de consacrer la France à la Vierge Marie, et le 6 janvier 1638, le texte du vœu royal fut adopté, puis signé par lettre patente. Et ce fut la fête nationale de notre pays, le 15 août, l'Assomption, avec procession et autel à Notre-Dame de Paris, et dans toutes les églises de France, une chapelle dédiée à la Vierge. Mais que dire? Que dire de la révolution de 1789? Pourquoi cette France catholique a été blessée? En 1689, au monastère de la Visitation de Paray-le-Monial, Jésus demanda à une religieuse visitandine, Sainte Marguerite Marie, « Fais savoir au Fils aîné de mon Sacré-Cœur que comme sa naissance temporelle a été obtenue par la dévotion au mérite de ma sainte enfance, de même il obtiendra sa naissance de grâce et de gloire éternelle par la consécration qu'il fera de lui-même à mon cœur adorable qui veut triompher du sien et par son entremise de celui des grands de la terre. Il veut régner dans son palais, être peint dans ses étendards et gravé dans ses armes pour les rendre victorieuses de tous ses ennemis en abattant à ses pieds ses têtes orgueilleuses et superbes pour le rendre triomphant de tous les ennemis de la Sainte Église. Et pourquoi? Pourquoi ce cœur sacré de Jésus n'a pas été mis sur les étendards et les armes de France? Mais quel mystère! Pour une autre révolution, celle de 1917, la Vierge Marie à Fatima a demandé le 13 juillet et a tué le 13 juin 1929 que soit fait un acte solennel de réparation et de consécration de la Russie au cœur immaculé de Marie par le pape en union avec tous les évêques et que soit instituée la communion réparatrice des premiers samedis du mois en réparation aux offenses au cœur immaculé de sa maman, de notre mère. Sœur Lucie donne une réponse dans une lettre du 18 mai 1936. D'une manière intime, j'ai parlé à notre Seigneur de ce sujet, et il y a peu de temps, je lui demandais pourquoi il ne convertirait pas la Russie sans que sa sainteté fasse cette consécration. Jésus répond: je veux que toute mon Église reconnaisse cette consécration comme un triomphe du cœur immaculé de Marie, ma maman, ma mère, afin d'étendre ensuite son culte et placer à côté de la dévotion de mon divin cœur, la dévotion à ce cœur immaculé. Mystère des révolutions de 1789, de 1917. Et voilà ce que rajoute Jésus à sœur Lucie. Ils n'ont pas voulu écouter ma demande. Comme le roi de France, ils s'en repentiront. Ils le feront, mais ce sera tard. La Russie aura déjà répandu ses erreurs dans le monde, provoquant des guerres et des persécutions contre l'Église. Le Saint-Père, le Pape, aura beaucoup à souffrir. Nous voici donc, ce soir, au pied de l'autel de ce même Jésus qui va donner sa vie comme à chaque messe. Plus de 200 ans plus tard, depuis la mort du fils de Saint-Louis, place de la Concorde, et la France subit les conséquences de l'abandon de la foi catholique. Divorce, contraception, avortement, enfants sans père ni mère, euthanasie bientôt. Quand la loi des hommes l'emporte sur la loi de Dieu, alors l'innocent peut être mis à mort, légalement, non seulement par un procès injuste, mais par la bonne conscience de la majorité au mépris des 10 commandements et de l'évangile d'un Dieu qui s'est fait homme. Nouvel Adam, né d'une nouvelle Ève. Mais puisque nous sommes entrés ce soir dans les gestes de Dieu par les francs, gesta Dei per francos, que le saint sacrifice de la messe soit accompagné par une espérance surnaturelle. Je voudrais vous parler pour réveiller votre ferveur, que vous puissiez vous confesser à ces trois confesseurs qui sont ici, que vous puissiez profiter de cette sainte messe pour mettre votre vie en ordre, pour prendre des résolutions pour cette année 2020. Il nous a été donné, et je me le permets parce que l'Église a béni ces apparitions, la Dame de tous les peuples est le vocable sous lequel est invoquée la Vierge Marie telle qu'elle est apparue à Ida Piederman à Amsterdam, aux Pays-Bas, du 25 mars 1945 au 31 mai 1959. Au cours de ces 56 apparitions, comme à Lourdes, comme à la rue du Bac, à Paris, la Vierge a délivré plusieurs messages concernant l'avenir de l'Église et du monde. Et elle a appelé les fidèles à la prière et à la conversion. Elle s'est désignée comme médiatrice, avocate et co-rédemptrice, associée à la rédemption de l'agneau de Dieu comme le cou par rapport au corps du Christ dont il est la tête. Tous les influx de la tête passent par le cou. C'est l'organe un des moins nobles, mais tout passe par le cou. La Vierge Marie, comme dit saint Bernard, est le cou de l'Église. Après de longs examens contradictoires, le 31 mai 2002, Mgr Joseph Maria Punt, évêque de Haarlem-Amsterdam, a reconnu comme authentiques et dignes de foi les messages et les apparitions. La prière inspirée à Ida reçoit une approbation officielle de la Congrégation pour la doctrine de la foi en 2006. Voilà cette prière. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Père, envoyez à présent votre Esprit sur la terre. Faites habiter l'Esprit Saint dans le cœur de tous les peuples, afin qu'ils soient préservés de la corruption et des calamités de la guerre. Et que la Dame de tous les peuples, la bienheureuse Vierge Marie, soit notre avocate. Pour, sous ce titre et par cette prière, dira-t-elle le 10 mai 1953, délivrer du monde d'une grande catastrophe. Oui, j'ai décidé ce soir de vous faire peur pour que vous puissiez vous convertir et croire en l'amour de Dieu. Dans son sixième message, le 3 janvier 1946, le 3 janvier 1946, fête de Sainte-Geneviève, voilà ce qu'il lui est dit dans une vision et dans une locution. Tout d'un coup, je vois quelqu'un à cheval, revêtu d'une armure. Comme je demande qui c'est, il m'est répondu « Jeanne d'Arc ». Derrière elle, je vois soudain s'élever une grande cathédrale. Je demande quelle peut bien être cette église. Et j'entends intérieurement « C'est la cathédrale de Reims ». Je vois ensuite un cortège qui s'avance et se dirige vers l'église. C'est un cortège comme dans les temps anciens, avec quelqu'un à cheval. Il porte un bouclier et une épée. Il y a un grand nombre d'écuyers autour de lui. J'entends « Bourbon ». J'ai l'impression que c'est pour plus tard. Le lys coupé reviendrait-il en France? Et pour terminer, je vous dirais que c'est une statue sculptée à partir de la Dame de tous les peuples d'Amsterdam qui a été l'occasion de trois messages au Japon, à Akita. Délivrée une religieuse, sœur Agnès Zasagawa, les 6 juillet, 3 août et 13 octobre 1973. À la suite de ces apparitions, la statue de la Vierge Marie fut l'objet de 101 lacrymations inexpliquées, entre 75 et 81. Ces événements ont été reconnus comme authentiques par l'évêque de Niigata en 1984 et approuvés par la Congrégation pour la doctrine de la foi en juin 88. Elle est ainsi l'une des 16 apparitions mariales officiellement reconnues par l'Église catholique. Le message du 13 octobre, anniversaire de l'apparition de Fatima et du miracle du soleil, est ainsi énoncé. La Vierge Marie, comme je te l'ai déjà dit, si les hommes ne se repentent et ne s'améliorent pas, le Père infligera un châtiment terrible à l'humanité entière. Ce sera alors un châtiment plus grave que le déluge, tel qu'il n'y en aura jamais eu auparavant. Un feu tombera du ciel et anéantira une grande partie de l'humanité, les bons comme les méchants, n'épargnant ni les prêtres ni les fidèles. Les survivants se trouveront dans une telle désolation qu'ils envieront les morts. Les seules armes qui nous resteront alors seront le rosaire et le signe laissé par le Fils. Récitez chaque jour les prières du rosaire. Avec le rosaire, priez pour le pape, les évêques et les prêtres. L'action du diable s'infiltrera même dans l'Église, de sorte qu'on verra des cardinaux s'opposer à des cardinaux, des évêques contre d'autres évêques. Les prêtres qui me vénèrent seront méprisés et combattus par leurs confrères, les églises et les autels saccagés. L'Église sera pleine de ceux qui acceptent des compromis et le démon poussera beaucoup de prêtres et de consacrés à quitter le service du Seigneur. Le démon s'acharne surtout contre les âmes consacrées à Dieu. La perspective de la perte de nombreuses âmes est la cause de ma tristesse. Si les péchés croissent en nombre et en gravité, il n'y aura plus de pardon pour ceci. 13 octobre 1973. Alors ce soir, confessez-vous, parce que c'est peut-être dans une semaine. Voilà encore du surnaturel qui se mêle à l'histoire. Les gestes de Dieu par les francs resteront toujours un pilier de notre espérance. Pour nous préparer à cette nouvelle année 2020, souvenons-nous du baptême de Clovis, entouré de la sainteté de Geneviève, Clotilde et Rémy. Souvenons-nous de l'humilité de Saint Louis dans ses croisades pour les lieux saints et les chrétiens d'Orient. Souvenons-nous du sacrifice de Louis XVI, qui peut nous valoir la protection de la Vierge Immaculée en union avec le Sacré-Cœur, malgré l'incendie de Notre-Dame de Paris. Faisons régner le Christ roi par notre foi, notre espérance et notre charité. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.